Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast saison 3 épisode 18. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Un nouveau changement de style aujourd'hui.
Ah oui, c'est la journée des tests.
C'est la journée des tests, vous avez peut-être pas remarqué forcément par cette transition qui est smooth mais impeccable. Mais on est en train de diffuser l'émission en mettant les musiques en direct, en essayant de faire des transitions en direct parce qu'on vous prépare quelque chose.
Ouais.
On va pas le dire tout de suite.
Non.
On se prépare encore un peu.
Surprise, surprise, motherfuckers.
Ça risque de rater pas mal de fois, donc on va se taire là-dessus. Mais faisons l'émission comme si de rien n'était. Et si ça bug un peu, vous le constaterez, ne vous inquiétez pas.
Mais on espère que non.
Non, on espère que non. Avec ma main experte, ça devrait bien se passer.
Oui.
N'est-ce pas ? Surtout que j'ai rien bu. Alors là, je suis focus. Au sommaire, cette semaine, on va parler de trois films. Le premier film, c'est Jojo Rabbit. On en avait un petit peu parlé, notamment sur la chaîne YouTube, à l'occasion du festival de Gand.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il est passé chez nous en Belgique. C'est le nouveau film de Taika Waititi.
Ah, oui, c'est
je suis
bien.
Content parce que Taika, parfois, il y a un peu des mélanges.
Oui, j'avais du mal, mais non.
Oui, j'ai toujours du mal avec les noms et les prénoms, de toute façon. Nouveau film assez particulier, puisqu'il parle de la jeunesse hitlérienne, ou en tout cas de la fascination pour Hitler, de manière comique. Attention, ce n'est pas la réalité. On est en train d'essayer de nous déformer ce qui s'est passé pour justement mettre en évidence l'exagération des choses dans la Seconde Guerre mondiale, et surtout d'un point de vue d'un petit garçon qui a été complètement aliéné par toutes les idées nazies et tout ce qu'on lui a vendu, entre guillemets.
Tout à fait.
On parlera de ça. On parlera aussi de Taika Waititi. Qui est-il ? D'où il sort ? Parce que c'est vrai que c'est un nom qu'on entend souvent. On en a même parlé la semaine passée, puisque Star Wars, c'est peut-être lui qui va réaliser le prochain volet. Donc, c'est bien de s'attarder un peu sur sa personne. Autre chose dont on va parler, c'est Uncut Gems, film qui sort sur Netflix, donc pas au cinéma. C'est vendredi, ouais. Du coup.
Le 31, tout
le
à
31,
fait.
Le 31, avec Adam Sandler. Alors, Adam Sandler, dans un film Netflix, vous allez me dire c'est une comédie. Non, pas du tout. C'est un film fait par les frères Safdie. Frères Safdie qui avaient fait notamment le film avec Robert Pattinson. Comment s'appelait ce film encore ? Présenté à Cannes. La petite colle de début d'émission.
Oui, mais non, mais alors, le pire, c'est que... Est-ce que c'est devant celui-là que je me suis endormi ?
Si,
non,
time,
je me suis pas endormi. Oui, Good Time. Mais
voilà.
Oui, j'étais en train de me demander si c'était celui-là, devant celui-là que je m'étais endormi ou pas. Parce que ça arrive quand même de temps en temps.
Ils sont réputés pour avoir un montage très, très rapide, ouais, nerveux.
Ouais. Non, mais je me suis pas du tout endormi devant celui-là. Non, mais... Après, en festival, après un certain nombre de jours et à partir de certaines heures, ça devient compliqué parfois.
Ça devient
compliqué. Pas se mentir.
Mais
Good Time, ça m'a énormément fait parler de lui, et d'eux, notamment donc des frères Safdie. Et là, évidemment, depuis ce coup d'éclat, ils sont attendus par énormément de monde, dont forcément ce Uncut Gems, surtout qu'il y a Adam Sandler au casting, donc... Avec lui, en général, ça fait très peur. Mais parfois, il te sort une petite pépite. Et ça se pourrait bien que ce soit le cas ici aussi.
On en parlera tantôt de toute façon de tout ça. On parlera aussi de la carrière d'Adam Sandler, le petit comique de service. Il a fait des bons films. Peu. Des très mauvais surtout.
Quelques-uns quand même.
C'est ça. On s'attardera un peu sur sa carrière et son passé d'acteur un peu passe-partout. N'est-ce pas ? Qui aime bien jouer plusieurs rôles dans un film. Ça lui arrive aussi. Et on terminera cet épisode par un film tout à fait sérieux et tout à fait important. Ça s'appelle Scandale, Bombshell en anglais, avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, la petite perle, en tout cas le casting féminin le plus fort, en tout cas de ces dernières années, je pense, le trio, pour parler du phénomène MeToo, du mouvement MeToo, et notamment son éclosion au sein même de la Fox, puisque ça a commencé dans cette rédaction-là, face rédaction, les présentatrices télé qui devaient passer dans le bureau du boss.
Tout à fait.
Voilà, donc on en parlera, c'est un sujet brûlant et un film tout aussi brûlant, je l'espère. Avant qu'on entame la revue de presse, c'est peut-être le premier foirage de cette émission en direct, en faux direct, on tient à féliciter Alexandre Lehubi qui a participé au concours en s'abonnant à notre compte YouTube ou à la chaîne YouTube, et il a gagné du coup 2 places de cinéma UGC. Donc n'hésite pas à nous envoyer un petit mail à cinecastbe@gmail.com pour récupérer tes 2 places, et on va te parler dans les commentaires aussi pour te dire hey Alexandre, passe par ici pour gagner tes places. Et vous, si vous voulez gagner des places, c'est très simple, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et la semaine prochaine il y a un tirage au sort quelqu'un va gagner 2 places. Bon, trêve de plaisanterie, je propose qu'on passe à la revue. La revue de presse, comme chaque semaine, on parcourt l'actualité ciné et on commence par le box-office, Thibaut. Box-office assez particulier puisque on a eu une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Bad Boys for Life, le Bad Boys 3, a cartonné, ouais. Que ce soit chez nous, mais également aux États-Unis, puisqu'il a toujours été premier une deuxième fois, deuxième semaine d'affilée aux États-Unis. Premier avec une trentaine de millions de dollars. Et chez nous, donc en France, parce qu'on n'a pas les résultats belges, vous commencez à connaître l'histoire un petit peu, le film a fait 655 000 entrées, donc une excellente performance au début pour une première semaine. En deuxième place, c'est important de le dire aussi, 1917, avec 430 000 entrées, pour un cumul maintenant de 1 million. En troisième place, c'est « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ». On n'en avait pas parlé. Je pense que c'est un film avec Jean-Paul Rouve, notamment. 200 000 entrées pour ce film-là. Quatrième, c'est « Scandale », Bombshell, dont on va parler aujourd'hui, avec 195 000 entrées. Et le cinquième film, c'est « Les filles du Dr. March », donc « Little Woman » de Greta Gerwig, qui est là, qui a chuté uniquement de 9%. Donc ouais. Ça veut dire que l'intérêt est toujours là pour ce film. Il y a peut-être un regain d'intérêt justement après un démarrage un peu maussade.
Le bouche-à-oreille commence à fonctionner à mon avis. Donc c'est pour ça que 9% de baisse, c'est très faible et c'est un beau résultat pour ce film peut-être un peu moins facile. En tout cas, c'est pas un blockbuster, c'est pas de l'entertainment comme Bad Boys. Donc évidemment, ce sont toujours des résultats un peu plus légers. Mais alors, c'est vrai qu'on a rarement le box-office pour la Belgique, mais quand ça fonctionne, les distributeurs ne manquent pas d'envoyer un petit mail pour dire que ça cartonne. Et donc, Bad Boys for Life a quand même déjà fait 200 000 entrées en Belgique, ce qui est énorme.
C'est gigantesque.
C'est gigantesque. C'est une très très belle performance. C'est un tiers de ce que la France fait quand même. Donc là, pour le coup, oui, c'est un beau carton.
Pour notre petit pays, c'est une très grosse performance et je pense que ça a un lien... Avec Adil et Bilal.
Avec la nationalité des réalisateurs, je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
Qui ont déclaré en rentrant en Belgique qu'ils avaient l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. Parce qu'ils rentrent chez nous avec un film qui maintenant dépasse 200 millions au box-office international, qui est en bonne voie pour dépasser les 300 voire 400 millions. Pour des réalisateurs belges d'origine marocaine qui ont fait des petits films en Belgique, c'est une belle, belle performance, une belle progression qui annonce du bon pour leur carrière, puisque un gros succès, on le sait, Hollywood, ça appelle d'autres films, bien sûr. Ouais.
Résultat donc, voilà. Plutôt pas dégueulasse.
En parlant de succès et d'autres films, bon, c'est pas vraiment de films dans ce cas-ci. Y a un petit changement. Bong Joon-ho qui nous avait sorti récemment Parasite. Parasite, Palme d'Or, oui. Du Festival de Cannes.
Et qui va ressortir en salle au cinéma en France en noir et blanc.
D'accord.
Voilà, à partir de mi-février, début mars, je sais plus exactement.
Et quelle est la raison ? Il y a une. Ils n'ont pas expliqué.
Va savoir pourquoi.
D'accord, bon, le film va sortir en noir et blanc, mais le film va peut-être faire l'objet d'une série, puisque Bong Joon-ho a déclaré très récemment qu'il avait en fait écrit plein d'histoires, plein de backstories pour les différents personnages, et puis bon, spoiler pour ce qui se passe à la cave. Et donc du coup, il penche sur 6 heures, donc une mini-série de 6 épisodes, autour de l'univers de Parasite et notamment de cette maison. Donc, pourquoi pas, on a hâte de voir ce que ça peut donner.
Ouais.
En tout cas, c'est un nouveau projet de la part de Bong Joon-ho. Va-t'en savoir où est-ce que ça va tomber, hein, soit chez Netflix ou chez quelqu'un d'autre. Je n'ai pas encore cette information-là et je pense qu'elle n'est pas encore sortie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité ciné, Thibaut ?
Eh bien, on peut parler de... Comme on le fait tous les X, hein, de Denis Villeneuve... qui, je pense, a été plutôt emballé par son Blade Runner, son expérience là-dessus, et que du coup, bah, pourquoi pas encore un autre, hein.
C'est important que Denis Villeneuve précise que ce n'est pas le but de continuer l'histoire vue dans Blade Runner 2049, mais de explorer l'univers avec d'autres personnes, d'autres peut-être réplicants, bien sûr, et avoir une autre histoire. Hein. On se rappelle du début du film avec Dave Bautista.
Bien sûr. Superbe scène, hein.
Très bon début de film, mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, tiens, d'où vient ce personnage? Quelle est son histoire? Et il avait même tourné beaucoup, beaucoup de scènes avec Dave Bautista qui n'ont pas été dans le montage final. Donc, c'est peut-être ça aussi qui lui a donné envie de continuer d'explorer l'univers de Blade Runner une fois encore.
Ben on sait que c'est à la mode hein, depuis quelques années maintenant d'aller faire d'autres films dans des univers similaires, voire des spin-offs dans des univers pas forcément similaires, mais avec des liens entre tous les films, hein, style les Cloverfield, etc. Donc tous ces trucs-là, on sait qu'il y a des possibilités infinies. Donc avec Blade Runner, pourquoi pas après tout, hein.
Ben, clairement. Et dernière actu ciné, une franchise qu'on pensait morte, pour des bonnes raisons, certainement.
Sûrement.
Anaconda. Je sais pas si tu te rappelles de ce film, enfin en tout cas de ces
Si.
films.
Mais le dernier était sorti quand? En début d'année 2000
Oui, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Moi, j'ai vu que le premier, hein, celui avec, je crois qu'il y avait Ice Cube dedans. Il y avait Jennifer Lopez, si je me trompe
Mais
pas.
c'était même pas les premiers, ça, hein, si?
Ah bon?
Mais non, non. Ah, mais je sais plus, dans celui de 97, il y avait qui, je t'avoue. Si, peut-être bien Ice Cube,
En
ouais.
tout cas, c'est à celui-là que j'ai pensé directement.
Ouais.
C'est hyper, hyper kitsch comme film. Mais ils vont relancer la saga Anaconda au cinéma. Bonne, mauvaise nouvelle, dites-le-nous en commentaire, bien sûr.
Ah si, c'est ça, hein. Ice Cube était bien dans le premier avec John Voight, Jennifer Lopez, t'as raison.
My
Mais
God,
c'est vrai
my
qu'il y a eu
God.
tellement de trois suites. Waouh. Mon Dieu, pourquoi?
Oui, pourquoi?
Bah
C'est une bonne
écoute,
question.
on verra bien.
Pour le pognon, bien sûr.
Oui, mais bon.
Quoique, tu sais que d'un point de vue cinéma, l'anaconda, c'est quand même un personnage à part entière, donc pourquoi pas?
Oui, on
Au
verra. Ils
bif.
peuvent pas faire pire que ces trois suites. Bref.
Bref, bref, bref. Bah,
Wait and see.
c'est fini pour la revue de presse. Abordons tout de suite le premier film de la semaine, qui s'appelle Jojo Rabbit, film qui a été réalisé par Taika Waititi, du coup. Jojo Rabbit, avant qu'on lance la bande-annonce, Thibaut, c'est un film particulier, puisque c'est pas une satire, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, on va parler de la jeunesse hitlérienne, notamment d'un enfant en particulier qui, lui, est un fanatique d'Hitler et qui a un ami imaginaire qui est justement ce Hitler, mais l'Hitler d'un point de vue d'un garçon de 8-9 ans. Donc, c'est pas du tout le Hitler que nous, on connaît. C'est un Hitler assez rigolo, détendu, enfin, jovial.
Oui. Oui, si, d'une certaine façon, on peut dire ça.
Est-ce qu'on se lancerait pas éventuellement un petit extrait de la bande-annonce?
Allez,
Ou la
vas-y.
bande-annonce en entier d'ailleurs?
Is Marshal Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house.
Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up.
I don't think I can do this.
Was? Of course you can. Aber dann kommst du.
When I was your age, I had an imaginary friend. Got me in so much trouble.
Kids, it's time to burn some books.
Yeah! You're growing up too fast. 10-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics.
Hi, Hitler.
I wish more of our young boys had your blind fanaticism.
Did you know Jews can read each other's minds?
But how would you know if you saw one? They could look just like us.
Hi.
You know what I am?
What's it?
A Jew. Gesundheit.
Voilà, on va pas mettre toute la bande-annonce parce qu'il faut pas spoiler le film non plus, mais vous avez vu l'essentiel, hein? Ce petit garçon qui est fanatique d'Hitler, qui a la représentation d'Hitler dans sa tête, qui se manifeste par Hitler joué d'ailleurs par Taika Waititi, et pour des raisons X, Y, Z qu'on va pas dévoiler, il va découvrir une petite fille juive chez lui, et donc toute sa vie va changer à partir de là, forcément. Ça va être le changement d'ambiance,
Oui.
très clairement. Et changement d'ambiance dans le film aussi, puisqu'on peut en parler, c'est très important. Le film a cette vocation comique.
Bah complètement, c'est une satire. T'as dit que t'étais pas sûr de pouvoir employer le terme, mais
Oui.
oui, c'est complètement une satire.
Mais il y a quand même aussi, il faut le savoir, toute t'as un aspect du film beaucoup plus dramatique, beaucoup plus puissant et même violent. Pas violent dans la violence à l'écran, je veux dire, tout est suggéré principalement.
Ouais.
Mais allez, on rentre dans le vif du sujet de la guerre et on n'est pas là non plus pour faire une blague pendant une heure et demie.
Non, c'est ça, ça parle quand même de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et ça aborde certaines des heures les plus sombres de cette période. Notamment le fait que les juifs étaient cachés chez des gens, que certains ont essayé de les aider, forcément que t'as les SS, etc., qui essayent de les déloger. Donc oui, il y a plein de choses qui sont quand même, comment dire, pas faciles, et ce sont des éléments qu'il faut gérer de façon quand même relativement avec délicatesse quand tu fais une satire. Parce que le film a vocation à faire rire, mais avec un sujet difficile. Je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais il faut faire attention, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui font rire dans le film, et c'est très facile de faire rire. Mais voilà, quand tu abordes des sujets un peu plus sérieux, plus délicats, plus traumatisants, etc., comme à peu près tout ce qui est lié à la Seconde Guerre mondiale, bah, il faut faire attention. Et donc, il faut faire attention à certains décalages, il faut faire attention à ne pas tomber dans le grotesque, à ne pas tomber dans le non-respect, etc. Donc, voilà, je pense que, et je trouve qu'à ce niveau-là, Taika Waititi s'en est bien tiré.
Mais moi qui ai vu le film aussi, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui m'a le plus dérangé, surtout dans la première partie du film, où là, je trouve que la comédie et l'humour prend vraiment le dessus. On a un Hitler qui est complètement décalé, mais ça, c'est pas grave. D'ailleurs, il a trouvé l'excuse parfaite, c'est qu'il fait en sorte qu'Hitler est dans les rêves d'un enfant, et donc du coup, il peut tout se permettre à partir de ce moment-là, parce qu'il y a l'innocence d'un enfant derrière, donc il peut faire des grosses vannes, il peut aller dans l'outrance. Mais la première partie du film me semblait tellement décalée, tellement ailleurs,
ouais,
que quand la deuxième partie du film, un peu plus sérieuse, avec certaines, tu vois, le changement d'ambiance était clairement là, je me suis moins senti concerné à ce moment-là. La magie n'a pas pris. Alors que normalement, je sens que le but du film aurait été percuté à ce moment-là, justement.
Ouais, ouais. Oui, oui. Alors je parlerai pas de magie.
Non, magie. Oui, ce que je veux dire.
Ouais, non, oui, mais oui, non. En fait, t'as pas été embarqué de manière aussi sérieuse que t'aurais dû l'être, en fait. Et oui, je comprends que ce soit un peu
too much. À mon avis, c'était, ouais, pour moi, c'était un peu too much.
J'aime beaucoup le film, mais j'ai remarqué que c'est une des critiques qui est revenue le plus souvent. C'est qu'en fait, le film est très drôle et à ce niveau-là, très réussi, mais ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de fond, il n'y a pas beaucoup de... Ça raconte quand même pas grand-chose dans l'absolu comme film. Ça reste très, voire trop léger peut-être. Et... voilà, même dans ces moments les plus sérieux, au final, qu'est-ce que ça dit? Bah oui, il faut... Enfin, ça raconte des choses qu'on sait déjà, et ça va pas très profondément dans l'analyse de quoi que ce soit. Ce qui, à mon avis, est dommage, parce que ça aurait pu... il aurait pu donner beaucoup plus de sens et de force à certaines choses qu'il aborde dans le film, ou en tout cas qu'il tente d'aborder. Et là, c'est vrai que certaines choses tombent un peu à plat, enfin à plat. En tout cas, ça passe dans le film, mais ça n'a pas plus d'importance que ça, et c'est assez dommage. Et je me rends compte, à mon avis, que d'une certaine façon, mon avis doit un peu différer par rapport à ce que j'avais dit. Même si je reste globalement très enthousiaste par rapport au film, mais c'est vrai que ce niveau de profondeur, de sérieux, c'est peut-être un des défauts du film. Ouais.
Ouais, je pense qu'il y a une chose par contre qui gère plutôt bien, c'est qu'il arrive à être percutant avec certaines transitions, certains enchaînements, pardon, qui moi m'ont plu. Je pense notamment au début du film où il nous montre, je crois que c'est une chanson des Beatles qui est reprise en allemand. Et il y a un montage avec tous des gens, des fans, comme s'il y avait des fans qui allaient attendre les Beatles à la sortie de l'aéroport ou à la gare ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est tous des gens qui attendent Hitler. Et donc, il y a ce côté très décalé de dire, en fait, il compare Hitler aux Beatles en montrant bien que pour la jeunesse allemande, c'était ça. Et donc c'est assez drôle parce que tu entends les Beatles, en même temps tu vois Hitler qui salue des gens, et enfin t'es là, wow, c'est assez spécial, et il s'est choqué comme ça. Et puis même, autre chose qui est intéressante, c'est sa manière de présenter les Juifs, la manière où il présente la jeune fille. Il y a toute cette scène qui est filmée comme un film d'horreur en fait, hein, avec les mains de la fille qui dépassent de la porte, et puis on la voit qui rentre avec ses cheveux qui pendent, enfin, on se croirait presque dans le cercle. Et donc il y a ce côté de mise en scène assez intelligente, je trouve. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'histoire est un peu trop surfaite. J'ai le côté surfait qui, moi, m'a dérangé, en fait. Peut-être c'est parce que le sujet n'appelle pas autant de fantaisie. Je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas pris. Mais je reconnais tout à fait les efforts de Taika Waititi et surtout l'originalité, parce que pondre un scénario comme ça et faire un film dans ce genre-là aujourd'hui, c'est assez culotté.
Ouais. Mais je trouve aussi que en fait, tout ce qui concerne les jeunesses hitlériennes, la relation entre Jojo et Hitler, enfin, son ami imaginaire Hitler, tout ce qui se passe avec son ami Archie, qui est quand même pour moi
Oui.
peut-être le meilleur personnage du film en fait.
C'est vrai.
Tout ça, c'est ce qu'il y a de plus réussi. Les parties avec sa mère, incarnée par Scarlett Johansson, sont pas mal. Il y a des choses assez intéressantes, assez justes à ce moment-là. Je trouve qu'après, il y a des petits soucis avec le personnage de Scarlett Johansson par la suite. Et oui, c'est toute la partie plutôt par rapport aux Juifs qui est la moins réussie. Mais tout le reste, avec ses camps des jeunesses hitlériennes, c'est hilarant.
Oui,
C'est ça, là. Enfin, c'est l'humour et le côté complètement décalé, surréaliste de Taika Waititi qui l'emporte à ce moment-là et qui font qu'on aime ce cinéaste et qu'on aime ce qu'il essaye de faire à chaque fois. Et ça fonctionne ici aussi. C'est juste dommage que tout ne soit pas au même niveau, en fait.
Très bien. Mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le film parce que moi, c'est un peu la sensation qui m'a laissé. Donc, je sais pas si tu voulais éventuellement conclure avec autre chose sur ce film-là.
Non, pas forcément. Enfin, si, quand même une chose. Sam Rockwell, absolument génial, comme d'hab.
J'avoue, j'ai oublié.
Taika Waititi en
Oui.
Hitler est génial aussi, hein. Mais voilà, moi c'est les deux performances que je retiens le plus, avec aussi
C'est du gamin quand même, hein.
Archie Yates. En fait, j'ai dit Archie, mais non, c'est parce que c'est le nom du comédien. C'est Yorkie dans le film,
Ouais.
donc le meilleur ami de Jojo. Archie Yates, absolument fantastique aussi. Donc voilà, ce sont les trois performances que je relève particulièrement. Scarlett Johansson est plutôt bien aussi, mais non, les deux meilleurs, c'est évidemment Taika Waititi en Adolf Hitler et Sam Rockwell dans le rôle du Captain Klesendorf. Et quant au petit Jojo en lui-même, bah, il est bien, il est sympathique, il a une jolie bouille, il fait bien le boulot, mais c'est paradoxalement pas le personnage le plus intéressant du film.
Non, c'est celui qui transporte le spectateur, mais c'est vrai que son ami, le comic relief, etc., enfin, voilà, y a vraiment des jeux qui se passent entre eux, et
Ouais.
dès le début, on sent qu'il y a cette espèce de camaraderie où on sait très bien qui va jouer quel rôle, et ça nous met directement en joie. Je pense que, en joie, je ne sais pas si c'est le terme de nouveau, mais ça nous fait directement rire, leur camaraderie est très bonne, et c'est ça aussi que je pense qui est un défaut du film, pour terminer. Ça commence très fort, je trouve, avec justement cette jeunesse hitlérienne, ce truc un peu à la Wes Anderson, ce décor très
Ouais,
léché,
t'as
etc.
l'impression de voir Moonrise Kingdom au
Voilà, c'est
début.
ça. Et puis au fur et à mesure, on se dit, ah oui, ça va être ce genre de film-là. Et en fait, non. Et donc, c'est peut-être aussi le fait qu'il n'a pas été peut-être à fond dans cette jeunesse hitlérienne. On va juste se concentrer là-dessus parce qu'il y a tellement de trucs drôles à faire là-dedans, avec le côté satirique. Le fait de revenir à une problématique un peu plus grave et tout, c'est peut-être ça aussi qui a divorcé le film.
Bah à mon
À
avis, il a dû
voir.
sentir qu'il savait pas faire, et puis je pense pas que c'était l'idée de toute façon, de faire un film uniquement là-dessus, sur les jeunesses hitlériennes. Donc, à mon avis, il a dû sentir qu'il n'y avait pas le potentiel pour en mettre plus dans le film. Et à mon avis, c'est pas faux, parce que je suis pas sûr que faire 1 heure et demie rien qu'avec ça aurait été bien vu.
Tout à fait. Quelle note tu lui donnes du coup à Jojo Rabbit?
Allez, avec le recul maintenant, 2 étoiles quand même.
2 étoiles du
Je
coup
pense que j'avais
pour.
donné 3, à mon avis. en octobre.
Jadis, oui. C'était trois.
Jadis. Mais je vais dire deux. Enfin, deux, oui, trois, c'est pas démérité non plus. Mais vu que tu as moins aimé, pondérons et donnons deux.
Donnons deux, tout à fait, pour Jojo Rabbit. Parlons peut-être un petit peu maintenant du réalisateur de Jojo Rabbit, hein, Taika Waititi. On en avait parlé dans cette critique-ci. Mais beaucoup d'entre vous entendent son nom, que ce soit dans la presse, dans Cinécast, ou même pour ceux qui connaissent les films Marvel, hein, notamment Thor, Ragnarok. Qui est-il? D'où il sort? Thibaut, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce réalisateur-là? Si tu as vu, en tout cas, je sais que tu as vu pas oui, tous oui. ses premiers films, mais tu avais notamment adoré son deuxième nom, hein, je pense, c'était What We Do in the Shadows.
Exactement. Bah, Taika Waititi, c'est un réalisateur néo-zélandais qui a une quarantaine d'années maintenant, 44 ans, et qui, avec effectivement son... Alors, c'est même pas son second long, mais en 2014, avec What We Do in the Shadows, il s'est vraiment fait connaître. What We Do in the Shadows, c'est une espèce de faux documentaire sur des vampires, où tu suis des vampires dans une maison, tu suis leur vie, leur routine, comme si c'était filmé comme un épisode de striptease, en fait, presque, tu vois.
D'accord.
En français, ça s'appelle Vampire en toute intimité, et c'était sorti en VF aussi à l'époque. Et cette VF avait plutôt bonne réputation. Donc, si vous avez vu le film, déjà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais si vous l'avez vu en VF, surtout, oui, faites-nous part de vos retours. Parce que même si je suis pas un grand fan des doublages à l'ère moderne. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et donc, il s'était vraiment fait remarquer avec ce film-là. Il était revenu quelques années plus tard avec Hunt for the Wild People, un film qui était passé au BIFF d'ailleurs en 2016, mais que je n'ai pas vu, je t'avoue.
Moi, j'avais vu par contre juste après son premier film, What We Do in the Shadows. C'est là que j'ai vu en premier d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez les conférences TEDx sur YouTube et notamment, etc. C'est des conférences en général d'entrepreneurs, de gens un peu influents.
Ouais, quoi, 12 minutes pour parler d'un sujet.
Exactement, voilà. Avec un petit tapis rouge et des caméras. Et d'ailleurs, les plus grands l'ont fait. Et il avait fait un TEDx après son film What We Do in the Shadows, en Nouvelle-Zélande, bien sûr. Et il parlait de la créativité. Et ce TEDx a été vu plus de 2 millions de fois, je pense, maintenant sur YouTube. Et c'est là qu'on voyait un peu tout le talent de Taika Waititi, parce qu'en 12 minutes, il arrivait à nous faire partir dans tous les sens avec sa créativité. Et c'est sûr qu'on se disait, tiens, enfin moi en tout cas je me suis dit, c'est qui ce type, on va le suivre parce qu'à mon avis il va nous faire d'autres films intéressants qui vont gagner de plus en plus en popularité. Et c'est le cas, hein, puisque après il nous a fait, après What We Do in the Shadows, c'était quel film qui nous avait sorti?
Hunt for the Wilder People, comme je te disais. Et puis évidemment Thor Ragnarok, là, je pense que tout le monde a commencé à faire attention à lui. Parce qu'avant ça, il était connu juste pour pas mal de courts-métrages, 2-3 longs avant What We Do in the Shadows, et puis voilà, l'explosion vraiment avec Thor Ragnarok. Mais il n'est pas que réalisateur, il est aussi acteur, on le voit quand même de temps en temps, mais pas toujours sous ses traits, ses vrais traits. Alors il joue dans tous ses films, il a toujours un petit rôle. Bon, dans Thor, on le reconnaît pas parce qu'il joue Korg, cette espèce de créature de pierre, ou je sais pas exactement comment définir ça. Mais il joue dans tous ses autres films. Et puis il a joué dans Mandalorian, donc c'est pour ça qu'on a parlé de lui un petit peu, parce qu'il jouait le robot dans... Enfin, IG-11 dans Mandalorian, et puis du coup bah, il est susceptible de réaliser un prochain épisode de Star Wars. Mais entre temps, bah, il a fait ce Jojo Rabbit qui a quand même pas mal fait parler de lui à partir du TIFF, et on l'attend déjà dans un autre film cette année normalement, un film qui va parler de
football.
Ouais, c'est ça,
d'un pays, je crois que c'est un pays totalement improbable qui va essayer de s'inscrire, de participer à la Coupe du Monde 2014.
C'est ça, les Samoa américaines.
Voilà, donc particulier comme pitch déjà.
Ouais.
Un peu comme, comment s'appelait encore ce film, Rasta Rocket.
Bien sûr.
Version foot, quoi. Ça peut être sympa, surtout avec son côté décalé.
Bah, les Samoa avaient perdu 31-0 face à l'Australie. Enfin, en même temps, dans le groupe Océanie, ils sont quand même pas 10 000 pays.
Non.
Hein, donc à part l'Australie, qui est en général la seule équipe à passer... à l'étape suivante, les autres, ils font un peu de la figuration. Et, Et ben, suite à cet affront, l'entraîneur de la fédération des Samoa a décidé d'essayer de se qualifier à la Coupe du Monde 2014. Autant dire qu'il n'y était pas, hein, mais...
Non.
Mais du coup, le film, je suis assez curieux de voir ça. Surtout qu'il a un joli casting, il y a quand même Michael Fassbender et Elisabeth Moss dedans.
Ah ouais.
Et puis je suppose plein d'acteurs samoa.
Je ne sais pas comment on dit, mais...
Des Samoa.
Des Samoa.
Voilà.
Tout à fait.
Donc... Et puis c'est toujours... Alors c'est un des derniers projets, à mon avis, de la Fox, parce que Taika Waititi, il est attaché à la Fox et Disney aussi.
Alors... J'ai ouï dire que Jojo Rabbit est le dernier film à sortir avec l'appellation 20th Century Fox.
Oui, parce qu'on...
Enfin, Fox on... Searchlight.
C'est vrai qu'on ne l'a pas dit dans les news, mais... 20th Century Fox.
C'est ce qu'on a dit la semaine passée.
On l'a dit déjà la semaine dernière. Je me souvenais.
Donc, c'est le dernier film de la Fox Searchlight. Après, ce sera Searchlight Pictures.
Ah oui, c'est juste.
Déjà cette année. Voilà, ça termine notre segment sur Takai Waititi.
Taika,
mais à chaque fois, c'est mal dit, c'est ça, mais tu sais bien ce qui se passe, c'est toujours pareil avec moi. Parlons maintenant du prochain film de la semaine, Uncut Gems, avec du coup Adam Sandler, qui est un dealer de diamants dans le New York Underground, filmé par les frères Safdie.
Et il joue un juif, évidemment.
Bah oui, ça, évidemment. Je propose peut-être qu'on démarre cette critique par un extrait de la bande-annonce.
Ça roule, Louis ?
Ça va.
T'as l'air bien pressé, dis donc.
Ouais.
Il s'arrête même pas
ça.
Pour taper
Merci
la
Larry.
Disque.
Tu redeviens juif ?
Ça faisait longtemps. J'ai pris un sacré risque. J'ai misé gros. Je pense que ça va enfin payer. Je donne les Celtics gagnants à la fin, mais aussi à la mi-temps. En plus, je vais prendre les points au tir et les rebonds de Garnett. Qu'est-ce que tu sais ?
Je suis au courant de rien, je le sens, c'est tout.
C'est le pari le plus débile qu'on ait jamais fait.
Eh ben, on verra. On verra, Gary.
C'est quoi, ça ?
C'est moi qui ai lancé le truc.
Non, t'es sérieux ?
Tu dépenses mon argent partout à New York et tu fais des paris avec. Je commence.
Voilà. Une bande-annonce pleine de... Tu fais des paris partout dans New York. Une bande-annonce pleine de testostérone.
Et oui.
Et il paraît que c'est d'ailleurs le cœur du film, Thibaut, toi qui l'as vu. Ça sort du coup vendredi sur Netflix, on le rappelle avant de commencer cette critique. Ça parle du coup, vous l'avez compris, d'un propriétaire d'une bijouterie. Dans le Diamond District de New York, ça pourrait être un pas de serre de chez nous, mais non, c'est à New York. Et en gros, il revend à ses heures perdues, mais sa vie va être bouleversée parce que sa marchandise disparue, envolée.
Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. On va dire qu'il va recevoir une pierre de je ne sais plus quel pays africain. Hein, sûrement le Sierra Leone et autres nations de ce style, qu'il a acheté pour une somme relativement faible et qu'il espère vendre aux enchères. Je pense qu'il espère en avoir 1 million, quelque chose comme ça.
Rien que ça.
Ouais, autant dire qu'il ne va pas la vendre à ce prix-là. Enfin, de toute façon, pour arriver à sa fin, c'est assez compliqué, mais le Gugus a beaucoup de dettes. Parce que il a emprunté de l'argent, il a du mal à rembourser, mais alors quand il essaye de rembourser, il fait des paris pour essayer de gagner plein de thunes pour rembourser. Enfin bref, c'est un cercle vicieux assez incroyable.
Oui.
Qui va se terminer dans un beau bordel assez jouissif. Voilà.
Quel genre de bordel ? Un bordel à la Tarantino ou...
Un bordel avec de l'argent, des morts, des trucs.
Oui, trucs de gangsta.
Du sport, hein, du basket.
Ok.
plein de choses assez joyeuses.
Tout ça en 1h20, 1h30.
Un peu plus de 2h, hein, je pense. 2h15, quelque chose comme ça.
D'accord. Oui, tout à fait. 2h15.
Voilà.
Il paraît, les frères Safdie obligent, que ce film n'est pas pour tout le monde, rien que pour son rythme. Qui est particulièrement effréné.
Ah, c'est très intense. Parce que le personnage joué par Adam Sandler, qui est donc ce bijoutier juif new-yorkais, qui s'appelle Howard, il fait que parler tout le temps, courir dans tous les sens, Il te fait des entourloupes en permanence. Il te refourgue. Il a une espèce de collection de fausses montres qui refourgue. Tu sais, quand il a une dette, allez, je te dois combien 2000 balles, allez, tiens. Prends la montre.
Oui.
C'est une Rolex. Machin. Bref. Bah non, c'est pas une Rolex. Et, ouais. Et c'est, il est tout le temps dans une dynamique assez, assez intense, assez énergique. Et donc, effectivement, du coup, tout le film est assez. Enfin, rythmé évidemment, mais rythmé de façon rapide. Parce que le gars, en plus, il doit jouer entre sa vie de famille, enfin, sa vie de famille. Il n'est plus au domicile conjugal parce qu'il n'est plus avec sa femme. Mais ils doivent prendre une décision, est-ce qu'ils vont divorcer ou pas. Il y a les gosses, ils ont des spectacles de temps en temps, il faut faire des choses. Mais bon, quand t'es un bijoutier de la petite heure, que tu fais des petites magouilles, des paris, que tu dois du pognon à des gens, que tu mets des objets chez des usuriers, etc. Mm-hmm. Il peut t'arriver des petites couilles de temps en temps.
Oui, voilà. En général, tu te prends une balle, quoi. Un jour.
Un jour ou l'autre. Tôt ou tard, ça peut arriver.
Tu fuis un canal.
Mais en tout cas, si ça va pas jusque-là, ça peut se passer mal de temps en temps. Tu peux te retrouver dans des coffres, bref.
Oui.
Dans des situations très inconfortables.
Et là, t'as The Irishman qui commence sur Netflix juste après. Belle transition.
Mais on est dans ce genre de dynamique, effectivement. C'est un peu de la. Enfin, c'est pas la grande mafia à l'italienne,
non, hein, non.
Ou la grande mafia new-yorkaise, comme on pourrait le penser, mais ce sont des petits malfrats, des petits. Voilà, des petites bandes. Des petites frappes, si on veut, ouais. Et donc, tout ce petit monde ensemble, ça fait rarement une fin heureuse.
Je suppose que, bon, Adam Sandler a ce côté charmant. En tout cas, on a envie d'être de son côté. Je sais pas si c'est le cas dans ce film-ci. Il a l'air particulièrement chiant comme personnage.
Il l'est très chiant, je te le confirme.
Mais du coup, est-ce qu'en tant que spectateur, on arrive à sympathiser avec lui? Ou au contraire, on dit, putain, allez, tais-toi et arrête un peu de faire des conneries?
Bah, c'est un peu épuisant comme film, hein, quand même, parce que...
Déjà, Adam Sandler, tout simplement, il est épuisant.
Ouais, mais... Comment dire, enfin... Il joue un personnage hyper exubérant, hyper... c'est la tchatch, c'est plein... Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai dit précédemment, donc... C'est vrai que c'est assez épuisant par moments. Et puis, t'as l'impression qu'il prend que mauvaise décision sur mauvaise décision. Tu dis, mais non, tu vas pas faire ça. Non, tu vas pas faire ça. Non, tu vas pas faire ça. Et puis, à un moment, sa pierre, sa superbe pierre qu'il reçoit d'Afrique, qu'il a achetée limite pour une croûte de pain, j'exagère un peu, il y a un grand basketteur américain qui passe, il se prend d'amour pour cette pierre, et du coup, ça devient limite son porte-bonheur, tu vois.
Okay.
Donc, quand il vient le voir, qu'il lui montre la pierre, puis il dit, tiens, tu peux me la prêter? Juste pour 2 jours, tu la reprends après et tout, mais... La pierre est censée partir aux enchères une semaine après, quoi. Oui. Est-ce que tu prendrais le risque, si tu gères tes affaires en bon père de famille, de prêter le caillou au basketteur?
Non.
Évidemment que non. Crois-tu qu'il le fait? Évidemment qu'il prête la pierre.
Il est trop gentil.
Et bon, plein de couilles, évidemment. Donc voilà, effectivement, avoir un personnage qui... se remet quand même rarement, voire pas du tout en question. Et il pense qu'il est toujours, qu'il est au top du top. Oui. Enfin non, il sait qu'il n'est pas au top du top, mais il veut faire croire qu'il est au top du top en permanence. C'est vrai que ça peut être fatigant, mais si tu rentres dans le jeu, dans le fait que Adam Sandler joue un personnage à la ramasse, qui est dans l'exagération en permanence, voilà, tu peux rentrer dans le film, évidemment.
Du coup, c'est le rôle parfait pour lui. Je veux dire, il peut briller là-dedans, quoi.
Oui. Oui, bah complètement. Moi, j'ai adoré, j'ai adoré le film, j'ai adoré sa prestation. C'est parfait pour lui dans le sens, le type, il fait que des comédies, donc il est toujours dans une espèce d'excès. C'est pas toujours très bien d'ailleurs, mais disons que ça, c'est parfait, un rôle comme celui-ci pour un gars comme Adam Sandler, quoi, parce que même si on n'est pas vraiment dans de la comédie pure, il y a quand même quelque chose de très comique dans le personnage, de très décalé. Donc forcément, voilà, ça fonctionne. Et je trouve ça très bien que ça fonctionne aussi bien.
Super. Qu'est-ce que tu peux lui donner du coup comme cote que j'aime.
Un excellent 3-4, je ne sais pas. Allez, 4.
4 étoiles.
Ouais, soyons fous. 4 étoiles pour Uncut Gems. Et pour ceux que ça intéresse, les frères Safdie ont réalisé également un court-métrage avec Adam Sandler. Ça s'appelle Goldman vs. Silverman. Okay. Vous le trouvez sur Vimeo. Ça dure 7 minutes, plus ou moins. Ils ont tourné ça, à mon avis, limite en partie en caméra cachée à Times Square. Ça n'a rien à voir avec le film. Hein. C'est juste... Ils se sont fait un petit kiff, les mecs.
Ils sont un peu marrés. Quoi.
Ouais, ils se sont fait un petit truc sympa. Ça, c'est drôle, c'est sympa, c'est bien foutu. Et donc voilà, si ça vous intéresse d'aller regarder un court-métrage des frères Safdie avec un des deux, je pense que c'est Ben ou Josh, enfin bref, un des deux, et Adam Sandler dans les deux rôles principaux, n'hésitez pas, Goldman versus Silverman.
Très bien, merci pour cette reco. On espère que vous allez apprécier le film vendredi sur Netflix. Et sachez-le aussi, beaucoup de gens sont très déçus qu'Adam Sandler ne soit pas aux Oscars, en tout cas nommé aux Oscars, parce que les gens disent que s'il devait gagner un Oscar un jour dans sa vie, c'est ce film-là.
Ouais. Bah alors, oui, j'ai pas voulu rentrer dans le débat, mais effectivement, il aurait pu au moins avoir une nomination. Ça aurait pas été volé du tout.
Bah oui, parce que...
Je ne pense pas qu'il l'aurait gagné, parce que... On a déjà mentionné tous les prétendants à la statuette un nombre incalculable de fois et on sait déjà que ça va probablement être pour Joaquin Phoenix avec Adam Driver à l'affût. Mais je pense que ça va être pour Joaquin Phoenix. Donc tant pis pour Adam, c'est dommage, mais c'est comme ça.
Tout à fait. Mais si je parle des chances, ou en tout cas des non-chances d'Adam Sandler aux Oscars, c'est parce qu'on va un peu s'attarder... à sa filmographie, qui...
J'adore l'image que t'as choisie. Hein.
Bah, écoute...
C'est tiré de quel film, ça, tu sais ?
Click, je pense.
Ah, peut-être bien... Oh, mon Dieu, j'avais oublié ce film.
Oui. Donc, ceux qui nous écoutent ne savent pas, mais vous allez voir sur notre chaîne YouTube, il y aura des extraits vidéo avec des photos en live. C'est pour ça que les transitions sont un peu parfois hasardeuses.
Oui,
si vous remarquez quelque chose. Essaye. Donc, voilà, on essaye d'améliorer Cinécast... Grâce à vous et pour vous, n'est-ce pas ? Parlons du coup d'Adam Sandler. Je vais être très franc avec toi. En général, quand je vois le nom d'Adam Sandler sur un poster, j'essaie d'éviter le film. Hein ?
On va pas se mentir, je pense que c'est le cas d'à peu près 85% de la population mondiale.
Ah non, il y a des gens qui ne jurent que par lui. Hein, je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est si populaire aux États-Unis notamment. Hein, il fait des films presque tous les ans. Et il fut un temps, c'est plus le cas depuis quelques années, mais il fut un temps où le nom d'Adam Sandler était synonyme de billet vert, puisque pratiquement chaque année, il faisait un petit film et ça rapportait 200, peut-être parfois même un peu plus, millions de dollars. Donc pour quelqu'un qui fait des films en général où il se déguise en grand-père, voilà, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a certains films de sa filmographie que tu veux mettre en avant ?
Mettre en avant, enfin... On passe en revue de manière très globale.
Oui, oui.
On va dire que le début de sa carrière a été relativement discrète. T'as quand même pas des grands films là-dedans. Et le premier film que je vais mentionner, c'est pas un grand film non plus, mais je pense que pour des enfants des années 90, c'est un film un peu marquant. C'était Big Daddy, quand même.
Oui.
Voilà.
Ce fameux poster où il fait pipi sous la porte d'un immeuble avec garçon un gosse.
Côté, ouais, bien sûr. Mais je pense que oui, Big Daddy fait partie de ces... Alors, grand film, il faut relativiser
on parle d'Adam Sandler.
Grand film.
À l'échelle d'Adam Sandler.
Mais pour des kids des 90s, oui, Big Daddy, ça fait partie de notre enfance, de notre côté nostalgique.
Ça, c'est sûr. Je sais aussi que dans les années 90, il y avait des films. Moi, je ne les ai pas vus, mais je sais que ça a été un grand succès. Happy Gilmore, c'était un Termina Golf en français. C'est quand même un concept. Ouais, il y avait Wedding Singer aussi, qui avait été assez connu dans les années 90. Mais bon, c'est clair que nous, en tout cas, chez nous, on était un peu jeunes. Mais Big Daddy, c'était le premier. Après, quand on regarde un peu les années 2000...
Début des années 2000, il a fait un grand film qui est quand même Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson.
Tout à fait.
Et
ça, c'est quand même un peu inattendu.
Et en fait, ce film, c'est une des X, et le X, c'est pas un grand chiffre, on va pas se mentir, une des quelques exceptions de la carrière d'Adam Sandler, où il t'a fait des trucs, t'es... Ok, d'accord, Adam Sandler, là-dedans, dans un truc comme ça. Et t'es là, mais oui, enfin, tu vois pas la logique, tu comprends pas spécialement ce qu'il vient faire là, mais il est là, et en fait, c'est très très bien. Donc, quand tu vois ce genre de choses, tu dis que c'est dommage que le gars n'ait pas fait plus de choses comme ça. Alors, ça veut pas dire que tous les bons comiques font forcément des grands drames. Tu sais, quand on a tendance à dire cette expression oui. en français, faire son tchao pantin comme Coluche. Je pense que tout le monde n'a pas besoin de... tous les comiques n'ont pas besoin de passer au drame un jour dans leur vie.
Bah, Danny Boone est la preuve vivante, hein. Il n'a jamais fait de drame.
Oui, mais c'est peut-être pas plus mal.
Non.
Cela dit. Alors, là on arrive déjà à la fin de la carrière d'Adam Sandler puisqu'on arrive à cette année, mais ils ont fait un film ensemble quand même, hein.
Chut, on va parler de ça plus tard.
On en parle après. Un film qui est assez sympa, d'ailleurs.
Ah là, ok. On en parlera après. Début des années 2000, du coup, Paul Thomas Anderson, rien que ça.
Il a enchaîné les daubes après, hein, quand même.
Oui,
enfin, déjà beaucoup de films dont on n'a pas entendu parler ou qu'on a oublié pour la plupart.
Non. Mais celui
Self Control, c'était quand même. c'était quand même costaud. Spanglish un petit peu dont on a entendu parler et puis on arrive je pense à celui que tu as mis en photo et dont tu allais parler
un tout petit peu parce que c'est le film d'Adam Sandler qui l'a propulsé à l'international, on va dire ça comme ça parce que bon Big Daddy oui c'était connu chez nous mais Click a été vraiment un énorme succès dans sa carrière à défaut d'être un bon film mais il y avait ce principe qu'on connaît tous hein, si une télécommande pouvait dicter notre vie. Et donc, en gros, c'est quelqu'un qui a une télécommande magique. Il peut agrandir les seins de sa femme. Il peut, enfin, un peu comme le film avec Dieu là. Comment s'appelle encore ce film avec Jim Carrey?
Oui, machin. Bruce Tout-Puissant.
Bruce Tout-Puissant. C'est un peu le même principe, sauf que c'est avec une télécommande. Donc c'est un type c'est en ça. Peignoir qui commande sa vie depuis son canapé. C'était clairement pas un super film, mais pour son concept, il a fait un peu le tour du monde. Et quand t'as 14-15 ans, c'est toujours assez sympa à regarder ce genre de film. Donc, il a marqué notre jeunesse. Autre film ?
Bah, après, en fait, il a enchaîné toutes ces comédies pourraves de Dennis Dugan et de Frank Coraci, qui sont quand même... Enfin, déjà, Frank Coraci qui a réalisé Click, entre autres.
Oui.
Et Le Tour du Monde en 80 jours, là, le film avec Jackie Chan et,
oh,
et Cécile de
ça.
France, etc. Mais globalement, Frank Coraci et Dennis Dugan ont réalisé énormément de comédies... à tendance daube, dans lesquelles Adam Sandler a fait ses armes et a été un rapporteur de pognon avec Quand Chucky rencontre Larry, rien que pour vos cheveux, rien que le titre
ah oui,
du film.
Ah oui, c'est vrai.
Oh mon Dieu, c'était une catastrophe. Il a fait Funny People de Judd Apatow, quand même, petite exception. Copain pour toujours, qui a été un gros succès aux États-Unis.
Ouais.
Le mytho Jack and Julie, alors oh, Jack and Julie, quoi. Ça, c'est encore une belle
c'est
catastrophe.
C'est Jack et Jill, oui, c'est ça.
C'était pas dans ce truc-là que je dise pas une connerie avec Al Pacino, là.
Oui, non,
ah
mais...
oui, il y avait Al Pacino.
Mais il joue deux femmes, non, c'est pas ça.
Si, c'est ça. Il joue un frère et une sœur.
Oui, c'est ça. Okay, c'est ça. Donc, mais là, c'était comme tu le dis, ces années money, hein, où là, en effet, entre Jack et Jill, Zookeeper, etc., il a fait vraiment un carton au box-office. Et puis, quand même, à partir du coup de 2013 et Copains pour toujours 2, sa famille, c'est le prochain film, Famille
Récomposée.
Oui. Mais à partir de là, clairement, sa carrière a pris un petit tournant. On l'a moins vu.
Ouais.
À partir de ce moment-là, il s'est fait beaucoup plus discret. Ça marchait un peu moins. Il a fait des mauvais choix, hein, notamment.
Pixel.
Oui, voilà, j'allais en parler. Pixel, quand même, de Chris Columbus. Quoi. Tu vois, c'est monsieur Harry Potter qui.
Et tu te demandes comment il en est arrivé là, quand même, Chris Columbus. Hein.
Money, 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 money. À mon avis, c'est plutôt ça.
Ouais.
Et là, c'est clair que ça n'a pas été du tout. Ridiculous 6.
Alors, j'ai l'impression qu'après, en fait. J'ai pas creusé la question, mais on aurait dû. Mais est-ce qu'il a pas fait un deal avec Netflix, Adam Sandler ? Parce que je pense que un certain nombre de films qui sont sortis à partir de 2015 étaient des sorties Netflix. Il me semble que Ridiculous 6, c'était une sortie Netflix, non ?
Oui, tout à fait.
The Do-Over, je pense que c'était aussi un truc Netflix.
Oui.
Meyer of It Stories de Noah Baumbach, qui était à Cannes. Donc on a vu Adam Sandler à Cannes. C'était Netflix
c'est
aussi.
C'est quelque chose.
Uncut Gems Netflix et Murder Mystery, le film dont je parlais tout à l'heure, dans lequel il joue avec Danny Boone et Jennifer Aniston, c'est un film Netflix. Donc globalement, je pense que et son prochain film, Hubby Halloween, est prévu sur Netflix. Donc je pense que Adam Sandler a un sacré deal avec le service de streaming. Parce que c'est pas possible autrement.
Non, c'est pas possible.
Il n'existe plus que grâce à eux, quoi.
Mais il profite un peu peut-être de ce deal pour faire des choix différents. Hein. T'en as parlé, hein, Mayorist Stories de Noah Baumbach. Et puis maintenant, Uncut Gems des frères Safdie. Clairement, on sent une volonté chez Adam Sandler de changer un peu sa carrière et de lui donner un autre visage. Maintenant qu'il commence à peut-être approcher, peut-être pas la fin de sa carrière, mais en tout cas, c'est clair que les années comédie potache, sont derrière lui. Donc maintenant, peut-être qu'on aura un autre Adam Sandler, mais je doute fort qu'il, à mon avis, va revenir dans un pétomane dans pas longtemps, vous inquiétez pas, c'est sa nature.
Mais, alors en fait, en 2017, il a re-signé un deal avec Netflix, donc comme quoi il en avait déjà un, pour 4 films de plus. Donc là, à mon avis, il doit arriver quand même tout doucement à la fin du truc, sauf s'il a re-signé un deal encore depuis, mais...
Mais il faut savoir aussi quel genre de film Netflix veut avoir. Est-ce que c'est des films comédies débiles qu'ils peuvent mettre en homepage ? Ou est-ce qu'ils sont d'accord de lui laisser carte blanche pour faire un film plus dramatique ou un thriller ?
Bah avec Uncut Gems et Meilleur Vide Stories, il a quand même prouvé qu'il pouvait faire un peu autre chose, même si Meilleur Vide Stories est une comédie dramatique. Enfin, c'est une Noah Baumbach en même temps.
Oui.
Le reste, ce ne sont que des comédies. Donc, on va voir.
Non. C'est clair. Mais, par exemple, le prochain film qui sort, hein, donc Hubby Halloween, c'est l'histoire d'un employé de restaurant qui est pas malin, qui se retrouve accusé d'un meurtre commis le soir d'Halloween dans la sinistre ville de Salem. Donc en gros, on sent déjà que ça va être un peu une comédie. Il y a des chances.
Avec Steve Buscemi, évidemment, parce qu'ils en ont fait quelques-uns des films ensemble, hein, Adam Sandler et Steve
Kevin
Buscemi.
James. Okay. Et ça va être une comédie.
Ouais.
Là, il n'y a pas trop de chat.
Et sacré casting quand même, hein, putain.
C'est clair.
Shaquille O'Neal.
Mon Dieu. Oui, il est partout, lui.
Et on parle de basket hein, cette semaine.
Oui.
Rest in peace, Kobe Bryant.
Voilà. On ne peut pas ne pas mentionner Kobe Bryant. Black Mamba, de son nom de scène. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter que Netflix a fait un tweet mal placé, puisqu'au moment même de l'annonce de la mort du joueur, sans faire exprès, ils ont programmé un tweet parlant de Space Jam.
Ah oui.
En mode, ah, vous voulez voir votre basketteur préféré dans un film, t'es là, oui.
Ouais.
Et donc, du coup, tout le monde a dit, il faut enlever. Ouais, mauvais timing, ouais. À mon avis, il y a un stagiaire qui a programmé ça vendredi soir.
Bien sûr.
Et il n'est pas retourné sur la plateforme entre temps. Ah là là.
Eh oui, les aléas.
Transition ?
Bah écoute, passons à la suite. Hein.
On va passer au dernier film de la semaine. Il s'agit de Scandale Bombshell, film qui parle de Me Too, qui parle du scandale au sein même de la Fox, et je propose qu'on commence par la bande-annonce.
Silence sur le plateau.
La télévision est l'activité la plus concurrentielle au monde.
Si une chaîne veut tenir l'antenne 24 heures sur 24, il lui faut des arguments pour captiver le public.
Allez, mettre une robe plus courte.
On doit montrer nos jambes.
Les femmes sont partout. Elles jouent même au tennis et au golf.
Les RH appellent parce que tu m'as traité de femelle.
Oui, il va falloir que je relise le manuel.
Le comportement hors caméra était bien pire. Tu es anti-mec, il faut que tu apprennes à vivre avec les hommes. Tu es sexy, mais t'es pénible. Regardez, j'en ai toute une liste.
Vous croyez que d'autres femmes vous suivront ?
Je veux vous convaincre que je suis faite pour être à l'antenne, Monsieur Hales. Je pourrais être un atout phénoménal sur votre chaîne.
Je pourrais faire en sorte que vous deveniez un élément phare de notre groupe. Mais je dois être sûr que vous êtes loyal. J'ai besoin que vous trouviez un moyen de me le prouver.
I'm the bad guy.
Voilà, I'm the bad guy, comme le dit Billy Eilish dans cette bande-annonce. J'espère qu'on va pas se faire copyrighter, parce que le morceau bad guy est omniprésent dans cette bande-annonce. Donc YouTube, soyez clément, s'il vous plaît. On parle du coup de Bombshell, scandale, inspiré de faits réels, n'est-ce pas ? Ça nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de télévision, c'est la Fox, assez puissante et aussi controversée, n'est-ce pas ? Puisque c'est le début hein, de l'explosion médiatique suite à des femmes journalistes qui ont réussi à briller en allant dans le bureau du patron, hein, entre guillemets. Et il y a notamment une femme qui s'oppose, enfin, qui est vraiment contre ces pratiques misogynes. On sait bien que dans les... je parle même pas des scandales sexuels, je parle vraiment aussi dans la télévision américaine, il y a ce côté, les femmes, on doit mettre des robes courtes, vous l'avez entendu dans la bande-annonce, il faut bien se présenter, il faut être un peu la nunuche, quoi. Et elle est contre ça, elle dit, mais vous ne parlez pas comme ça à l'antenne, etc. C'est la femme interprétée par Nicole Kidman qui va prendre les devants et qui va apprendre, entre guillemets, ce qui se passe au sein même de la chaîne et qui va, avec forcément les victimes, s'allier pour lutter contre le pouvoir et ses excès, bien sûr.
Tu as plutôt bien résumé le film. On est vraiment aux prémices, si je puis dire, du mouvement MeToo. On est en 2016 et à Fox, ouais, c'est vraiment pas... Tout est loin d'être rose. Et le patron, alors quand je dis patron, c'est le responsable de la rédaction de Fox News dans son ensemble. Donc je parle pas de Rupert Murdoch, qui est le propriétaire de Fox, mais bien de Robert Ailes, le patron de Fox News. Et effectivement, il avait tendance à mettre des règles assez strictes. Au niveau de la longueur des jupes, etc. Il faisait monter certaines filles dans son bureau, et quand il n'avait pas satisfaction, bah, ça pouvait avoir des conséquences. Annulation de ton show, au pire, ou alors des réductions de salaire, enfin, voilà, plein de styles de représailles, donc, ou alors virer carrément, hein, ça arrivait. Donc voilà, le personnage était très controversé, et comme je pense dans toutes les boîtes, tous les endroits où il y a des cas de harcèlement sexuel, beaucoup savent ou suspectent, mais personne ne prend les devants pour réagir,
ouvre sa bouche,
pour en parler. Et donc c'est compliqué, parce que forcément, à partir du moment où il y a quelqu'un qui se lance, c'est un peu plus facile, et encore... comme le montre le film, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Tout le monde ne réagit pas directement dès que le personnage de Nicole Kidman dévoile cette histoire-là. Les langues ont mis du temps à se délier. Et ce qui est plutôt intéressant, je trouve, dans le film, qui se base donc sur des journalistes qui ont existé, même si ils n'ont pas toujours les vrais noms, etc. Globalement, c'est que des cas, ou presque, qui ont existé. C'est-à-dire, le film mélange un peu les deux, forcément. Il faut que, dramaturgiquement, ce soit intéressant. C'est comme ça qu'on retrouve notamment le personnage de Margot Robbie, qui joue une petite nouvelle, qui travaillait avec le personnage de Nicole Kidman, qui était donc une présentatrice phare d'une émission. Émission qui a changé de case horaire. Ah, tiens. C'est-à-dire que tu commences à refuser certaines choses. Et donc, le personnage de Margot Robbie, la petite jeune... Bah, elle est passée d'assistante à une émission, à peut-être un rôle un peu plus important, etc. Et donc, en fait, le film présente trois personnages, globalement, qui ont des parcours et des influences différentes chez Fox, ce qui rend donc le film plutôt intéressant, parce que, voilà, à partir du moment où tu as des profils différents, et que tu as quand même des situations qui peuvent être similaires, ben c'est assez intéressant de voir comment chacun, enfin chacune en l'occurrence, réagit, et comment chacune vit avec cette situation. Donc voilà, le personnage joué par Nicole Kidman déclenche un mouvement au sein de l'entreprise qui va engendrer plusieurs conséquences, évidemment, et ça c'est ce qu'il faut découvrir dans le film.
D'accord. Est-ce que tu considères que c'est le film de Nicole Kidman ou que c'est un casting d'ensemble et que les trois femmes jouent et échangent la donne, quoi ?
Oui, ça, elles sont toutes relativement sur un pied d'égalité, je dirais, que ce soit Nicole Kidman, Charlize Theron ou Margot Robbie. Charlize Theron qui est absolument méconnaissable. Quand tu vois la photo, une photo d'elle dans le film, si tu sais pas que c'est elle, c'est assez compliqué de deviner parce que vraiment, je sais pas ce qu'ils lui ont fait au niveau du maquillage, sans doute un peu de prothèse, etc. Ouais. Ils l'ont pas mal changé quand même.
Ce qui est incroyable aussi, c'est quand on voit les trois femmes alignées, Il y a une ressemblance qui est dingue, quoi. On a l'impression qu'ils ont choisi les journalistes sous un type et voilà, quoi.
Voilà, c'est le stéréotype de la blonde, la grande blonde. Peut-être aux yeux bleus, mais je t'avoue que je ne connais pas la couleur des yeux de toutes. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Après, quand tu vois le reste du film, tu vois qu'il y a des brunes. Enfin, je veux dire, c'est les femmes, point. Mmh. C'est pas que les grandes belles blondes.
D'accord.
Mais très clairement, pour les présentatrices et les journalistes qui apparaissent à l'antenne, il faut être joli.
Ok.
C'est aussi simple que ça.
Très bien. Donc, on est devant un film de scandale. Est-ce que c'est un peu comme Spotlight, où il y a un dossier qui va se monter jusqu'à la grande révélation?
Oui.
C'est ça, ok.
Oui, on est là-dedans. Maintenant, c'est pas un spoiler. Roger Ailes a quand même été viré de Fox suite à ça.
Mm-hmm.
Il a touché de belles indemnités. Faut pas aller le plaindre.
Il était bien viré.
Mais il était de notoriété publique que certaines personnes dans l'entreprise, dont un journaliste vedette aussi, Bill O'Reilly, sur un nom que vous avez sans doute déjà entendu, notamment parce qu'il a aussi été viré par la suite. Mais voilà, Bill O'Reilly, c'était vraiment de notoriété publique qu'il avait tendance à harceler ses collègues, etc. Donc, et puis bon, en plus, c'était un néo, enfin, hyper conservateur, etc. Donc déjà, politiquement, c'était aussi assez... c'était pas évident. Donc voilà, le Gaillard était connu pour plusieurs choses, et rarement des choses très belles.
Bon, je propose que, je crois qu'on a fait le tour, à part si tu veux encore parler de certaines performances ou du travail de Jay Roach.
D'abord, pour terminer sur Roger Ailes, malheureusement, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup souffert d'avoir été viré de Fox, parce qu'il est décédé un an après avoir été viré, ou un an et demi. Donc voilà, il a été une victime, entre guillemets, enfin, une victime, pas de ce qu'il a fait, mais on va dire qu'il n'a pas vécu les conséquences de ses actes très longtemps par la suite. C'est ça que je voulais dire. Okay. Parler de victime dans ce cas-là, c'est non. Mais par contre, Jay Roach, j'ai pas grand-chose à signaler sur sa mise en scène dans l'ensemble, c'est assez classique, ça fait le boulot. C'est plutôt bien foutu. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais à nouveau...
Mais le film n'est pas dans la course aux Oscars, alors que pourtant, avec un sujet pareil, avec casting pareil...
Bah Margot Robbie a eu quelques nominations quand même au Golden Globe, je pense, et puis à mon avis aux Oscars aussi. Pour le reste, voilà, c'est vrai qu'il passe peut-être un peu plus inaperçu. C'est de ces films qui ont pu se faire remarquer à un moment, mais peut-être pas plus que ça, voilà, qui sont dans une espèce d'entre-deux. Mais on en parle quand même, et puis je pense que c'est un film important, donc c'est pour ça que nous, on en parle aussi.
Comment tu lui donnes, du coup, à ce film ?
2 étoiles.
2 étoiles, du coup, pour Scandale. Est-ce qu'on va un peu parler des films de la semaine prochaine ?
Mais oui, on va parler de Official Secrets, de Une vie cachée, de Terrence Malick, A Hidden Life, qui était à Cannes, qui est déjà sorti en France en décembre, je pense, et qui sort dans nos salles maintenant. Et puis, on va encore parler de Margot Robbie, puisqu'on va aborder Birds of Prey, le spin-off d'Harley Quinn. Le
film qui est projeté en Screenix, c'est ça le nom ?
C'est bien ça.
La nouvelle technologie, il y a ça en verse, je ne sais pas s'il y a ça aussi ailleurs en Belgique.
Je ne pense pas.
Pas pour l'instant.
C'était cette fameuse technologie qui se base, à mon avis, sur celle de Barco.
Où on peut projeter sur les côtés, c'est ça ?
Oui, en fait, tu as 2 autres écrans à côté de l'écran principal, et ça te donne des prises de vue supplémentaires pour certaines scènes.
D'accord, ok. Bon, reste à voir si c'est encore plus incroyable que la 4DX.
Je crois que c'est très gadget, à mon avis, quand même.
Oui,
ils avaient fait ça pour Star Trek, le dernier Star Trek, donc avec la technologie Barco. Apparemment, c'était que quelques scènes, forcément, où tu as ça en plus. C'est pas tout le temps. Je pense que ça devait être sympathique, mais voilà, à mon avis, ça s'arrête là.
D'accord. Bah, du coup, on verra ça la semaine prochaine, le 5 février. Et quant à nous, bah, on se retrouve samedi. Samedi, on fait la cérémonie des Magritte en direct depuis la page Facebook de Ciné News, notre partenaire, et en direct aussi depuis la page YouTube de Cinécast. Donc abonnez-vous au compte YouTube pour suivre l'émission en direct. Et d'ailleurs, en vous abonnant au compte YouTube, vous allez participer au concours UGC qui vous fait remporter 2 places de cinéma. Donc, il y aura un tirage au sort. Et le 5 février, on vous dit quoi ? Mais abonnez-vous aussi au podcast sur les différentes plateformes d'écoute, puisqu'on est disponible un peu partout, que ce soit Apple Podcasts, sur Spotify ou Castbox, Podcast Addict. Bref, vous avez tout ça dans votre GSM. Bon, voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Mais oui.
C'était la première fois qu'on faisait un épisode comme ça enregistré avec cette espèce de faux direct. Donc, si jamais il y a eu des petits bémols, on s'excuse.
Oui, il y a eu des petits moments de flottement. Je pense que l'énergie était parfois un peu bizarre.
Oui, parce qu'on doit se concentrer sur plusieurs choses à la fois.
Oui, surtout toi. C'est vrai que tu as beaucoup de boutons, beaucoup de choses à lancer.
Quelques transitions.
Pas toujours évident. Donc, bravo Guillaume. Je pense que tu as quand même plutôt bien fait ça.
Ça va le faire, ça va le faire.
Mais ça va donner un chouette résultat. Donc, voilà. Désolé si parfois c'était pas au top. C'est pour un bien.
Hein ? Tout à fait. On innove.
Et oui.
D'ici là, on se dit à la semaine prochaine.
Mais oui, enfin même à samedi.
À samedi.
Des bisous.